Désiré Bois, les plantes alimentaires chez tous les peuples et à travers les âges. Histoire, utilisation, culture. Plantes à épices, à aromates, à condiments. Plantes à épices. On donnait jadis le nom d'épices à toutes les drogues exotiques d'origine végétale, soit médicamenteuses, soit employées comme stimulant dans l'alimentation. D'après Littré, le mot « species » désignait déjà chez les latins les aromates, c'est-à-dire les espèces par excellence, et finalement, dans les langues romanes, le sens en est particularisé dans le mot « épice ». Semblablement, l'apothicaire nommait « species » non pas les drogues en général, mais des drogues particulières et spéciales. L'italien appelle l'apothicaire « speziale ». En français, le mot « species », qui avait formé régulièrement le mot « espèce », se modifia pour désigner les drogues et devint « épices ». Il se transforma en « spices » en anglais et « spezerei » en allemand. Aujourd'hui, le mot « épice » s'applique à certains produits végétaux doués d'une odeur aromatique, d'une saveur piquante et forte, qui entre souvent dans la préparation des aliments pour en rehausser le goût et leur communiquer des propriétés excitantes. Ces produits sont d'ailleurs fréquemment utilisés dans la thérapeutique et font partie des médicaments stimulants, appelés aussi aromates. C'est surtout sur le tube digestif qu'ils agissent. L'usage des épices nous est venu de l'Orient, d'où elles sont presque toutes originaires. Jusqu'au XVe siècle, ces contrées, alors mystérieuses, pour les Occidentaux, envoyaient leurs produits si renommés par caravane au bord de la Méditerranée, d'où leur transport, après avoir enrichi les Phéniciens, fit la fortune des républiques italiennes du Moyen Âge. La recherche de leur provenance et leur commerce ont véritablement changé la face du monde. C'est en quête du pays des épices que partirent, à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, les hardis navigateurs, découvreurs de continents. Marco Polo, né en 1250, mort en 1323, célèbre voyageur vénitien, avait ouvert la voie aux Européens par ses pérégrinations en Asie. Puis ce fut le tour de Christophe Colomb, 1492, de Vasco de Gama, 1497, de Magellan, 1520, de Jacques Cartier, 1534. Dans son dictionnaire encyclopédique de l'épicerie, A. Seigneurie dit avec raison que l'épicerie peut se glorifier de ses navigateurs fameux ainsi que de la famille des Médicis qui symbolisa la source de sa richesse en ajoutant 3 pilules à ses armoiries. Longtemps, le prix des épices fut très élevé, les communications avec les régions productrices étant longues et difficiles. Denrées de luxe, elles se vendaient au poids de l'or. Les Portugais et les Anglais possédèrent durant de nombreuses années le monopole de leur commerce et le partagèrent ensuite avec les Hollandais, en s'efforçant avec un soin jaloux de limiter la production dans les lieux mêmes d'origine des plantes. Malgré toutes les mesures prises pour empêcher la propagation de ces végétaux en d'autres endroits, nous verrons que parvenant à tromper la surveillance rigoureuse dont ils étaient l'objet, on arriva à s'en procurer pour les cultiver ailleurs, au grand bénéfice des consommateurs qui en achetèrent enfin les produits à meilleur compte. Le mot « épice » était donc autrefois synonyme de « denrée rare ». Il fut à un moment de don précieux. Au XIIIe et XIVe siècle, un plaideur qui avait gagné son procès offrait aux conseillers rapporteurs, sous le nom d'épices, des boîtes de confiture et de dragées. La coutume d'épices donnait aux juges se perpétua. Elle fut abolie par la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, déclarant que les juges seraient salariés par l'État et administreraient gratuitement la justice. C'est de la locution « payer en épices » que dériverait celle de payer en espèces. Les épices étaient si coûteuses au Moyen-Âge que l'on cite comme exemple d'une prodigalité inouïe l'action d'un banquier allemand, Fugger, allumant devant Charles Quint un fagot de cannelle avec une reconnaissance que lui avait souscrite le puissant empereur. Pendant quelques siècles, l'Europe n'a reçu les épices que par l'intermédiaire des compagnies de commerce, dont les privilèges exclusifs étaient aussi nuisibles aux intérêts des cultivateurs coloniaux qu'à ceux des consommateurs. Mais ces privilèges constituaient alors un encouragement, un dédommagement des risques à courir pour les capitaux engagés. L'insécurité des pays d'outre-mer, les moyens de communication si primitifs pour entreprendre de longs et périlleux voyages, les difficultés du commerce, les rendaient évidemment nécessaires. Le commerce de l'Orient se trouva ainsi monopolisé par les compagnies. La France eut sa compagnie française des Indes orientales, à laquelle Henri IV avait accordé, en 1604, le privilège exclusif du commerce et qui fut réorganisé en 1664 avec privilège de Louis XIV. Dès 1595, la Hollande eut une compagnie des pays lointains, et plusieurs autres se créèrent ensuite. Puis elles fusionnèrent toutes en une compagnie des Grandes Indes. La reine Élisabeth Ière, en 1600, octroya un privilège à la compagnie anglaise des Indes. Ces compagnies s'attachèrent à tirer le plus de profit possible des produits qu'elles importaient et l'histoire des épices, notamment du giroflier et du muscadier, montre à quel degré d'aberration peut conduire l'appât du gain. Les clous de girofle étaient connus des Chinois bien avant l'ère chrétienne, mais ne commencèrent à apparaître en Europe que vers le IVe siècle. On crut qu'ils provenaient de Java, jusqu'à ce que les Portugais eussent découvert l'arbre producteur dans son pays d'origine, les Moluques, au début du XVIe siècle. Les Portugais, maîtres du commerce de cette épice, en conservèrent près d'un siècle le monopole, qui passa entre les mains des Hollandais en 1605, lorsque ceux-ci chassèrent les Portugais des Moluques. Pour s'assurer complètement ce monopole, les Hollandais prirent des mesures extrêmement regrettables. Ils essayèrent de détruire le giroflier dans ses îles natales et organisèrent des expéditions en vue d'en confiner la culture dans un groupe de petites îles, particulièrement à Amboine. À l'heure actuelle, ce sont ces plantations d'Amboine qui alimentent en grande partie le commerce des clous de girofle, les autres îles des Moluques n'en produisant plus. Malgré la surveillance active exercée pour empêcher le transport de plants ou de graines en des régions pouvant devenir concurrentes, un de nos compatriotes, Poivre, intendant des îles Maurice et de Bourbon, réussit à se procurer quelques girofliers qu'il introduisit en 1770 dans ces deux colonies françaises. Il en fit parvenir d'autres à Cayenne, Guyane française, en 1793, et de là, cette plante précieuse se répandit dans toute la zone intertropicale. Poivre dota nos colonies non seulement du giroflier et de la plupart des plantes à épices, mais encore de nombreux végétaux très intéressants. Il arracha également le monopole de la noix muscade aux Hollandais qui avaient limité la culture du muscadier à Banda et à Amboine en supprimant tous ceux qui croissaient dans le voisinage. Ce monopole était fructueux car à cette époque, les noix de muscade étaient beaucoup plus utilisées que de nos jours. Pour en tirer le plus possible de bénéfices, on laissait les récoltes entassées dans les magasins et il ne paraissait à la fois sur les marchés que de faibles apports de produits nouveaux. Certaines récoltes restèrent plus de 15 ans sans être vendues. C'est ce qui arriva pour celle de 1734 notamment, qui ne fut mise au commerce qu'en 1760. En cette dernière année, afin d'éviter un amélissement des prix, une quantité considérable de noix de muscade fut brûlée à Amsterdam. Valmont de Beaumard, qui raconte la chose dans son Dictionnaire d'histoire naturelle, volume 4, 1775, dit avoir vu un feu dont l'alimentation était estimée 8 millions en argent de France. On devait en brûler autant le lendemain. Les pieds des spectateurs baignaient dans l'huile essentielle de ces noix, ajoute-t-il. Le rôle de poivre a donc été très important. N'est-il pas étonnant que le nom de ce bienfaiteur soit aujourd'hui presque oublié? Aussi, considérons-nous comme un devoir de rappeler le souvenir de cet excellent Français. Pierre Poivre naquit le 23 août 1719 à Lyon, où sa famille était dans le commerce depuis près de 3 siècles. Il fut élève des missionnaires de Saint-Joseph. Poivre se destinait à la carrière ecclésiastique et aux missions lointaines. D'une intelligence très ouverte, il se passionna pour les sciences naturelles et les documents de l'époque le représentent comme un peintre de talent. En 1740, à l'âge de 21 ans, il est envoyé en Chine avant de recevoir l'ordination, mais les événements fâcheux marquent son premier voyage en Extrême-Orient. À la suite de la délation d'un indigène, il est arrêté et emprisonné. Ignorant le chinois, le jeune voyageur ne peut pas se défendre. Un autre se serait désespéré. Lui, il emploie un moyen radical et que lui permet une instruction lente de son procès. Il apprend le chinois. Dès que son vocabulaire est suffisant, il plaide lui-même sa cause devant le vice-roi résidant à Canton, réussit à prouver son innocence et à gagner les bonnes grâces du vice-roi. Durant 2 ans, il circule en Chine, puis il accompagne quelques missionnaires en Cochinchine, où il séjourne encore 2 ans. Revenu à Canton, son éducation de missionnaire étant jugée accomplie, en 1745, il part pour la France afin d'y être ordonné et avec l'intention de retourner aussitôt après dans cet empire chinois où il s'est fait des amis. Dans le détroit de Bangka, le navire qui le transporte, le Dauphin, est attaqué par un vaisseau anglais. Pendant le combat, Poivre lutte vaillamment aux côtés des hommes de l'équipage. Il est renversé par un boulet qui lui emporte le poignet droit et fait prisonnier par les Anglais. Un chirurgien ne peut que terminer l'amputation de l'avant-bras, la gangrène s'y étant établie. Ainsi mutilé, Pierre Poivre ne pourra pas être prêtre. La peinture lui est également interdite. Il s'adonne à l'histoire naturelle. Débarqué par les Anglais à Batavia, il consacre les 4 mois qu'il passe dans l'île de Java à étudier la culture des arbres à épices. Puis il se rend à Pondichéry. Témoin des discussions entre Dupleix et la Bourdonnais, il profite du retour de ce dernier en France pour s'embarquer avec lui sur la Chille. Arrivé à la Martinique, il prend passage, comme la Bourdonnais, sur un bateau hollandais pour rejoindre la patrie. Sur les côtes de France, il est fait prisonnier par un corsaire de Saint-Malo. Celui-ci ayant été capturé à son tour par une frégate anglaise, il est mené en captivité à Guernesey, où il resta jusqu'à la signature de la paix le 18 octobre 1748. durant les loisirs forcés de sa détention, Pierre Poivre mûrit un projet qui avait germé dans son esprit lors de son séjour à Batavia. Il s'agissait d'abord d'organiser des relations commerciales avec la Cochinchine et ensuite d'introduire des épiceries fines à l'Île-de-France et à Bourbon. Cette deuxième partie de son dessein était particulièrement profitable au commerce français, puisque les Hollandais jouissaient alors du monopole du commerce des arbres à épices. La plantation de ces espèces dans nos possessions des îles Mascareignes pouvait y créer une importante source de richesse. À peine est-il à Paris que Poivre va trouver les directeurs de la Compagnie française des Indes orientales et leur soumet son double programme. Mais ceci exclut ce qui concerne l'importation secrète de plants d'arbres à épices. Au contraire, l'idée de fonder des comptoirs en Cochinchine sourit au directeur qui n'y voit pas, comme dans l'introduction des arbres à épices, une cause de difficulté avec les commerçants hollandais. En 1749, Poivre part ayant une mission officielle pour la Cochinchine. À Faifo, les autorités locales l'autorisent à ouvrir un comptoir, puis il revient à l'Île-de-France. Un trait de caractère de Poivre qui se rapporte à cette époque de sa carrière mérite d'être cité, parce qu'il manifeste sa scrupuleuse honnêteté. À son arrivée à l'Île-de-France, il s'empresse de verser dans les magasins de la compagnie jusqu'au présent qu'il a reçu en Cochinchine. Il repousse toute indemnité pour les pertes qu'il a subies pendant son voyage. Dans une lettre au directeur, il s'exprime ainsi. « Je vous ai remplacé tel objet de mon argent parce qu'on me l'a volé par ma faute et qu'il n'est pas juste que vous en supportiez la perte. » Par contre, il apporte avec lui, à l'Île-de-France, toute une collection de plantes utiles, des poivriers, des canneliers, différents arbustes produisant des teintures, des résines, des vernis, des arbres fruitiers et du riz sec de Cochinchine. Les bons résultats que Poivre a obtenus de sa mission en Cochinchine finissent par persuader les dirigeants de la Compagnie des Indes qu'après tout, cet intrépide naturaliste qui leur a offert de créer la culture des épices à l'Île-de-France est peut-être capable de réunir cette délicate affaire. Poivre est envoyé à Manille à la recherche de girofliers et de muscadiers. C'est une tentative extrêmement ardue, car les Hollandais s'ingénient à garder le monopole de leur culture. Aussi Poivre a-t-il à affronter de réels dangers. Dans un premier voyage à Manille, il parvient cependant à se procurer quelques plants de muscadier, des muscades propres à la germination et des girofliers. Mais les introductions de ces arbres précieux doivent porter sur une plus grande quantité de plants. Les directeurs de la Compagnie des Indes promettent une frégate à Poivre qui, après l'avoir attendu vainement, se décide à regagner Pondichéry avec les quelques plants qu'il a déjà recueillis. Malgré ses véhémentes supplications, Duplex lui refuse absolument le petit bâtiment grâce auquel il effectuerait aux Moluques un chargement intéressant. Force est donc à Poivre de retourner à l'Île-de-France en 1753 avec seulement 5 plants enracinés de muscadiers, des noix de muscade pouvant germer et quelques girofliers. Ces plants sont confiés à Aublé, directeur du jardin d'essai du Réduit, créé par Barthélemy David, gouverneur de l'Île-de-France. Fusée Aublé était un botaniste de valeur qui, après un séjour à l'Île-de-France, alla à la Guyane, où il forma une très importante et très remarquable collection de plantes. Il décrivit nombre d'entre elles qui était nouvelle pour la science dans son Histoire des plantes de la Guyane française, publiée en 1775. Malheureusement, Aublé, qui manquait d'expérience dans la culture des plantes, avait des préjugés. il n'admettait pas que les plantes à épices fussent cultivables à l'Île-de-France et ne recula devant aucun moyen pour prouver qu'il avait raison. Poivre trouve de sa part et de celle de quelques Français de la colonie un véritable acharnement contre la réalisation de ses projets. Mais Delauzier Bouvet, qui est gouverneur par intérim, mesure l'étendue de l'œuvre que veut accomplir Poivre. Il met à son service un bateau de 160 tonneaux, la Colombe, qui prend la mer le 1er mai 1754. La traversée et le voyage dans l'archipel sont des plus dangereux. Un jour, la Colombe, sur le point d'être coulée par un vaisseau hollandais, ne doit son salut qu'à un pavillon neutre que Poivre fait arborer et qui trompe l'ennemi. Le pays est dévasté par une lutte acharnée entre les naturels et les Espagnols. Il faut louvoyer habilement dans cette région troublée, éviter les pirates et résister aux réclamations de l'équipage qui juge cette navigation inutile et veut revenir à l'Île-de-France. Pourtant, la Colombe finit par arriver à Timor, où Poivre obtient des autorités un traité par lequel elle s'engage à livrer à la Compagnie des Indes des plants de muscadier de Banda et de giroflier d'Amboine. Le 8 juin 1755, Poivre est de retour à l'Île-de-France. Non seulement il a rempli sa tâche, mais il lui reste 3000 piastres qu'il n'a pas dépensés et qu'il reverse dans les caisses de la compagnie. Quant aux plans apportés par la Colombe, les uns sont distribués parmi les habitants de la colonie, les autres placés au réduit jardin botanique officiel de l'Île-de-France. Poivre a la douloureuse surprise d'apprendre que les 5 plants de muscadier confiés au réduit à la suite de sa première mission ont disparu. Aublet les a laissés mourir et s'est même gardé d'utiliser les noix de muscade reçues en 1753, déclarant qu'elles étaient incapables de germer. Une décision formelle du Conseil supérieur de l'Île-de-France l'oblige à les semer. Il sème une noix et plante un muscadier. La muscade germe, mais Aublet ne se tient pas pour battu. Le 28 octobre 1755, il invite le conseil à venir au réduit constater que le plant est mort ainsi que le jeune individu issu de la noix, ce qui est en effet observé. Des soupçons s'élèvent sur la cause réelle de cet échec. On en discute et le conseil supérieur finalement ordonne une enquête dont le résultat est accablant pour Aublet, convaincu d'avoir arrosé d'eau bouillante les muscadiers qui s'obstinaient à pousser. En 1756, Magon est nommé gouverneur de l'Île-de-France et Poivre s'empresse de lui demander un bâtiment afin de retourner aux Moluques chercher des plans. Magon, n'ayant pas d'instruction spéciale à cet égard, refuse d'organiser cette expédition. Poivre, voyant alors qu'il n'a plus rien à espérer, rentre en France. Il y est chaleureusement accueilli, car la métropole s'intéresse à ses actes. Il avait été élu correspondant de l'Académie des sciences le 4 septembre 1754, et de Jussieu parlait de lui avec éloge. Le roi Louis XV lui-même, partageant ses bonnes dispositions, lui envoie avec ses remerciements une gratification de 20 000 livres qui lui permet de se fixer dans une maison de campagne des environs de Lyon où il vit 10 ans de calme et d'effacement. Sur ces entrefaites, le jardin du réduit de l'Île-de-France s'enrichit de plantes utiles et ornementales. Aublet continue à l'administrer, mais sous la direction du gouverneur Magon, qui fut un bienfaiteur du pays, dit l'historien mauricien Adrien d'Épinay, par l'essor qu'il donna à la culture de toutes les plantes utiles. Le 1er juillet 1766 parvient à Poivre dans sa retraite une proposition officielle qui sans doute le remplit de joie. Prenant en main le gouvernement direct des îles Sœurs, le roi devait choisir un intendant, fonctionnaire de justice, police et finances pour assurer à côté du gouverneur la direction de la colonie. Après 10 ans, Louis XV pense que l'homme le plus apte à s'acquitter de cet office, c'est Pierre Poivre. Il le nomme intendant de l'Île-de-France le 3 octobre 1766 avec 12 000 livres d'appointements et 12 000 livres de gratification annuelle pendant la durée de son mandat. Poivre se marie au début de l'année 1767 avec Mademoiselle Robin. Le 17 juillet 1767, il débarque à Port-Louis avec sa femme, enfin maître de faire toutes les tentatives de culture qu'il juge opportunes. Tandis qu'il réorganise l'administration intérieure de l'île, il achève heureusement ses introductions de plantes à épices. En mai 1769, la corvette, le Vigilant, part pour les Moluques, accompagné de l'Étoile du Matin et chargé de rapporter des muscadiers et des girofliers. Les navires poursuivent chacun de son côté leur fructueuse recherche, puis rentrent ensemble triomphalement à l'île de France le 24 juin 1770 avec une cargaison comprenant 400 plants de muscadiers, 10 000 noix de muscade, 70 plants de girofliers et une caisse pleine de fruits de cet arbre. Enchanté, le conseil supérieur s'enthousiasme pour les arbres à épices. Imbu d'un particularisme un peu étroit, il prend un arrêté défendant l'exportation d'arbres de cette sorte, malgré Poivre qui, voyant les choses de plus haut, trouve désastreux de priver d'autres possessions françaises d'une culture rémunératrice et qui, obligé de signer l'ordonnance, la transmet à Choiseul avec ses protestations. Celles-ci sont entendues et le ministre autorise le transport des arbres à épices à l'île Bourbon et à la Guyane où leur culture prospère. Persévérant dans son entreprise, Poivre renvoie aux Moluques en juin 1771 les bateaux L'Île-de-France et le nécessaire qui reviennent le 4 juin 1772 avec un chargement de muscadiers et de girofliers. L'importation a complètement réussi, mais elle ne va pas sans quelques protestations et discussions, car le jardin du réduit existe toujours, ayant encore Aublé à sa tête. Or, celui-ci, avant l'expédition de 1770, avait soutenu que les muscadiers reçus jusqu'alors étaient de faux muscadiers. Poivre doit prouver le contraire. Dans ce but, il demande à Provost, qui avait récolté les plantes dans les divers voyages et qui a toute sa confiance, de lui procurer l'un et l'autre de ces muscadiers afin d'en bien montrer la différence. Mais Aublé, contre l'évidence, prolonge sa campagne de dénigrement et il faut l'arrivée du naturaliste Commerson à l'Île-de-France pour la terminer. Ce dernier, qui s'est lié d'amitié avec Poivre, exaspéré par les assertions d'Aublé, envoie au roi, le 8 juin 1772, une attestation assez vive où il les qualifie de menteuses et de calomnieuses. Poivre avait acheté le domaine de Montplaisir, ou Jardin des Pamplemousses, à la Compagnie des Indes, et y avait installé sa femme dès son arrivée dans l'île. En 5 ans, il le convertit en un admirable jardin botanique et zoologique où il réunit toutes les espèces végétales et animales qu'il peut acquérir dans les Indes et ailleurs. Lorsqu'en 1772, Poivre quitte l'île de France, les pamplemousses sont l'un des plus fameux jardins d'essai du monde. Le roi le lui achète et Poivre, ne se départissant pas de cette délicatesse de conscience qui est l'un des plus beaux traits de son caractère, revend cette propriété qu'il a si remarquablement embellie la somme exacte qu'il avait payée à la Compagnie des Indes, c'est-à-dire 38 400 livres. La multiplication et la culture des arbres à épices commencés par Poivre furent continuées de la façon la plus heureuse par son élève Céré, jeune créole que, sur le désir de Poivre, le roi chargea de l'administration des pamplemousses. En 1775 apparurent les deux premières fleurs de giroflier. L'une tomba, mais la seconde noua, et le fruit se forma normalement. Surveillé comme un trésor et recueilli soigneusement par Céré, en présence des autorités, il fut offert au roi par le chevalier de Ternay quand celui-ci rentra en France. Dans les mois qui suivirent, les giroflillers entrèrent en rapport et en 1777, il y eut une récolte importante. Les muscadiers se développèrent plus lentement. La première fleur n'apparut que le 1er mars 1778 sur l'un des plants apportés en 1770. Le 7 décembre de la même année, raconte Albert Picot dans sa chronique de l'île de France, le gouverneur Labrianne, escorté de l'intendant, des principaux officiers de l'administration, des corps constitués et des notables habitants de la colonie, se rendit à Montplaisir, où Céré le reçut magnifiquement. La noix fut détachée de sa branche avec une certaine solennité et expédiée au roi à la première occasion qui se présenta. On parla beaucoup de cette réussite qui honora grandement Poivre. Celui-ci se montra non seulement acclimateur ardent et habile, mais aussi un administrateur probe, vigilant, éclairé et très humain, car il s'efforça d'adoucir la condition des esclaves. Rentré dans la vie privée, en 1773, il mourut à La Fretta, dans les environs de Lyon, le 6 janvier 1786. Il a laissé des manuscrits précieux. Le poivrier et son fruit, le poivre, contrairement à une croyance courante, ne tirent pas leur nom de celui du botaniste qui s'est tant appliqué à propager les épices. Il s'agit là d'une simple et bizarre coïncidence, car le poivre a toujours porté cette appellation. Au XIIIe siècle, Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien, citait cette épice sous cette dénomination. Si Poivre introduisit les plantes à épices à l'île de France, il en dota aussi l'île de la Réunion, où elles se répandirent rapidement grâce à son ami et excellent collaborateur Joseph Hubert, dont Émile Trouette a publié la correspondance. Saint-Denis, Réunion, 1881. Ainsi, en 1792, dans la paroisse de Saint-Benoît, il y avait déjà 15 000 giroflillers de diverses tailles, sans compter maints jeunes plants obtenus de semis. Hubert écrivait en 1820 « Il est de toute vérité et à la connaissance de toute l'île que le giroflier qui m'a été donné par M. Poivre a produit la presque totalité des giroflillers du vent de cette île qui, seul, donne tout ce que cette colonie produit de girofles. » En 1806, le plus ancien, le père des girofliers de la Réunion, âgé de 34 ans, fut détruit par un terrible ouragan. Hubert, désolé, ne put retenir ses larmes. Pour commémorer cet arbre, il construisit sur son emplacement un édicule, sorte de guérite voûtée, dit le tombeau, qui, bien que détérioré, existe encore à Saint-Benoît. À plusieurs reprises, Joseph Hubert demanda aux administrateurs de l'île de témoigner la gratitude des habitants en élevant un monument à la mémoire de Poivre, ce bienfaiteur de la colonie, cet intendant vertueux qui pendant 25 ans et par pur patriotisme, afin de procurer les épices à la France, n'a pas hésité à entreprendre des expéditions dangereuses. En 1819, il adressa au commandant Milius, pour être placé au gouvernement, la copie d'un portrait de Poivre que lui avait envoyé sa veuve, alors veuve de Dupont de Nemours. Hubert exprimait de nouveau, à cette occasion, le regret de ce que rien, pas même le nom d'une rue, ne rappela le souvenir de Poivre et souhaitait que fût réparé ce silence ingrat. Le portrait de Poivre figurait en 1881 dans le cabinet du gouverneur de l'île de la Réunion. Son buste, commandé probablement en 1819, exposé d'abord au jardin, puis transporté dans le parterre nord, fut définitivement rétabli au jardin du gouvernement. Dans l'histoire de la nature vivante, d'après les œuvres des grands naturalistes français, volume 5, Bernardin de Saint-Pierre et l'harmonie de la nature, Paris, 1930, page 49, Louis Roule montre quelle fut l'influence de Poivre sur Bernardin de Saint-Pierre lorsque celui-ci séjourna à l'île de France où il était en mission. C'est lui qui développa chez l'auteur des études de la nature et de Paul et Virginie le goût de l'observation et de l'étude des plantes et qui en fit un amant de la nature et de l'humanité. Les héros fictifs de Paul et Virginie, cette chaste et attachante idylle coloniale, seraient, assure-t-on, Bernardin de Saint-Pierre, lui-même et Madame Poivre. Fin de la longue préface de Désiré Bois pour son livre « Plantes à épices, à aromates, à condiments ».